Le manifeste des 343 salopes, 5 avril 1971, lu par Daniel Hirsch. Les Français sortis acheter le journal au matin du 5 avril 1971 durent ouvrir de grands yeux. Alors que le Monde avait fait sa une sur la stagnation persistante de la croissance économique, le Nouvel Observateur lançait à la figure de ses lecteurs « Je me suis fait avorter ». Ou plus précisément, la liste des 343 Françaises qui ont le courage de signer le manifeste « Je me suis fait avorter ». La liste en question comportait des noms connus. Les écrivaines Françoise Sagan, Marguerite Duras, Violette Leduc, Monique Wittig. Les actrices Catherine Deneuve, Jeanne Moreau, Bulle Ogier, Delphine Seyrig, Anne Wiazemski. La réalisatrice Assiès Varda et la metteuse en scène Ariane Nouchkine, la philosophe Simone de Beauvoir et sa sœur Hélène, l'avocate Gisèle Halimi, la chanteuse Brigitte Fontaine et bien d'autres. Et à côté de ces célébrités qui prenaient ainsi publiquement la parole, on découvrait peut-être le nom de sa voisine, de la professeure des enfants, de la secrétaire de son mari, d'une collègue, de la boulangère ou de sa femme de ménage. Car ainsi que Gisèle Halimi le déclara à l'époque dans une interview, la vérité, c'est que toutes les femmes avortent, y compris les femmes de députés et les maîtresses de ministres et tout le monde. Seulement, elles ne le disent pas. Le manifeste, publié dans le Nouvel Observateur, avait été rédigé par Simone de Beauvoir à la demande conjointe du journal et du MLF, le Mouvement de Libération des Femmes. 1 million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses, en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées, alors que cette opération, pratiquée sous contrôle médical, est des plus simples. On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté. De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre. Un peu comme MeToo de nos jours, le manifeste réclamait la fin du silence. Ce problème, disaient les signataires, concernait la société dans son ensemble, et non quelques femmes isolées. C'était une façon de flanquer ce sujet, jusque-là abordé à mi-voix, sous le nez des ménages bourgeois, et de dire « Et maintenant, l'hypocrisie, ça suffit. On ne peut plus continuer à ignorer la situation. » Nous sommes en 1971. L'État doit agir. On ne pouvait plus tolérer que les femmes concernées aient recours aux aiguilles à tricoter et aux cintres pour se faire avorter elles-mêmes, au risque d'y laisser la vie. La démarche des signataires était courageuse. Non seulement parce que ces femmes risquaient leur réputation, et pour les artistes, leur popularité, et donc leur boulot, mais aussi parce que cela pouvait leur valoir des poursuites pénales. En France, en Allemagne de l'Ouest, et dans nombre d'autres pays occidentaux, l'avortement était illégal et passible d'amendes, voire d'emprisonnement. C'est en 1943 qu'avait eu lieu la dernière exécution d'une femme condamnée pour l'aide qu'elle avait apportée à un avortement. Mais que pesaient ces sanctions face à la peur, au désarroi et à la solitude induits par cette situation? Qu'était l'argent ou les poursuites face au danger d'un avortement illégal ou au drame que constituait un enfant non désiré dans la vie d'une jeune femme? Lorsqu'en 1963, l'écrivaine Annie Ernaux tomba enceinte sans l'avoir souhaité, ce fut comme si son corps lui disait « Ça suffit, tu n'iras pas plus loin en dépit de tes efforts ». Elle décrit dans l'événement son avortement traumatisant, au cours duquel elle faillit mourir d'hémorragie. Et le sentiment affreux d'être livrée, pieds et poings liés, à son corps. Or, c'était contre cela que le manifeste voulait lutter. « Notre ventre nous appartient », écrivaient les femmes du MLF dans leur tribune. Et elles firent de la phrase « Un enfant si je veux, quand je veux » un slogan qui ne tarda pas à résonner dans les rues de Paris et de Berlin. 2 mois après le Nouvel Observateur. Le 6 juin 1971, le magazine allemand Der Stern publia, à l'initiative d'Alice Schwarzer, sous le titre « Nous avons avorté », une liste de 374 femmes reconnaissant avoir contrevenu au paragraphe 218 du Code pénal et réclamant l'abrogation de l'interdiction de l'avortement. Il est peu de numéros de revues qui aient eu autant d'influence sur la vie des femmes. En France, c'est grâce à la tribune publiée par le Nouvel Observateur que le droit de disposer de son corps fut inscrit à l'agenda politique. Le 26 novembre 1974, 3 ans après le manifeste des 343 salopes, Simone Veil, alors ministre de la Santé, présentait devant l'Assemblée nationale son projet de loi sur la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Elle s'adressait à un auditoire presque exclusivement masculin, ce qu'elle mentionna avec regret dans son discours. Et elle expliqua à ces messieurs: aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. C'est toujours un drame. Mais, poursuivit-elle, on ne pouvait plus continuer à ignorer les centaines de milliers de femmes qu'un avortement illégal laissait chaque année mutilées. On accusa Simone Veil, qui avait survécu à Auschwitz, de vouloir envoyer des fœtus à la chambre à gaz. L'entrée de sa maison fut souillée de croix gammées. Mais elle ne céda pas à l'intimidation. Elle tint bon et finit par faire passer sa loi, qui porte le nom de loi Veil et autorise l'avortement en France jusqu'à la 12e semaine de grossesse. La même année, la loi allemande fut modifiée dans ce sens, mais on laissa subsister le paragraphe 218. En théorie, l'interruption volontaire de grossesse reste illégale, mais elle est tolérée jusqu'à la 12e semaine de grossesse, sur la foi d'un certificat de consultation délivré par un centre agréé. Plus de 50 ans après la publication du manifeste, le droit à l'avortement reste fragile et se voit régulièrement remis en question, surtout durant les périodes de crise. En Pologne, la loi, déjà très restrictive, autorisant l'IVG, a été durcie il y a quelques années, au point qu'elle en vient, pour ainsi dire, à la prohiber. Au Texas et dans l'Oklahoma, on a vu réapparaître la loi moyenâgeuse du battement de cœur, qui autorise l'avortement tant que le cœur du fœtus n'a pas commencé à battre. Autrement dit, durant la période où, le plus souvent, la femme est encore ignorante de sa grossesse. En 2022, la Cour suprême des États-Unis révoquait l'arrêt Roe v. Wade, rendu en 1973, qui accordait aux Américaines le droit d'avorter en vertu des principes de la Constitution. En revanche, l'Irlande catholique et l'Argentine ont légalisé récemment l'IVG. Comme l'a dit la journaliste allemande Alice Schwarzer à l'occasion du 50e anniversaire du manifeste, « Hier comme aujourd'hui, nos corps sont le champ de bataille de la lutte pour l'émancipation. »